L'interview politique, lesfrançais.press. L'info des expats par les expats.
Mon invité pour lesfrançais.press, Karim Menchek, bonjour.
Bonjour Mathieu Hutin.
Candidat donc pour ces nouvelles élections législatives, c'est partiel dans la 9e circonscription des Français hors de France, après une annulation du Conseil constitutionnel. Karim Menchek, si vous voulez bien, on va revenir sur ce qui s'était passé. Vous aviez battu Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre de la majorité nationale, lors du scrutin d'il y a quelques mois. Et puis, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler l'élection puisque les messages téléphoniques pour les mots de passe pour le vote en ligne n'avaient été délivrés qu'à un taux de 38%. Résultat, on va retourner aux urnes et ce sera ma première question. Que pensez-vous de ce vote en ligne? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il faut retourner à l'urne? Votre sentiment, puisque là, pour le coup, ça nécessite de retourner voter.
Oui, Mathieu Hutin. Déjà, merci d'avoir rappelé finalement les motivations du Conseil constitutionnel à propos de l'annulation de l'élection, qui effectivement ne mettait pas du tout en cause le candidat élu. Ensuite, vous posez la question du vote électronique. Donc, moi, je suis plutôt favorable à tout ce qui peut permettre la plus grande participation possible de nos citoyens et de nos compatriotes à cet exercice démocratique. Donc, bien entendu, il y a le vote à l'urne qui doit être assuré. Si le vote électronique permet une plus grande participation, c'est bien. Ensuite, il faut par contre se donner les moyens de cette participation. Et on sait très bien que le vote en ligne ne peut venir que compléter aussi les moyens humains qui sont mis. Moi, j'ai toujours, vous savez, dans mon programme, j'ai toujours dit que j'étais favorable à la dématérialisation à partir du moment où elle accompagnait aussi les moyens humains. Or, on sait qu'il manque crucialement dans notre circonscription et dans notre réseau consulaire.
Peut-être sur la façon de voter en ligne, le système est trop friable, il est trop fragile. C'est pas la seule circonscription, la 9e où l'élection a été annulée à cause du vote en ligne. Il faut changer de prestataire, il faut que l'État porte techniquement elle-même ce vote en ligne.
Écoutez, en tout cas, moi, il faut que l'État garantisse la fiabilité du scrutin et garantisse qu'il y ait le moins d'aléas techniques possible.
Alors, jusqu'à l'annulation de votre élection, vous étiez membre de la Commission des Finances, alors que la France et aussi les Français de l'étranger se mobilisent contre la réforme des retraites. Quelle est votre analyse de la réforme? Quel impact pour vous sur les Français de votre circonscription?
Alors, cette réforme, vous savez, les conditions dans lesquelles elle a été amenée sont pour le moins étonnante, voire brutale. Moi, j'ai toujours dit, enfin, d'ailleurs, comme un certain nombre de collègues à l'Assemblée, que c'était une réforme, d'une part, injuste et inutile. Injuste parce que, notamment, par exemple, elle pèse particulièrement sur les femmes. Inutile car, quand on entend le Conseil d'orientation des retraites, on ne voit pas trop l'utilité de cette réforme, même l'impact pour les années à venir. Et ensuite, les conditions dans lesquelles a été amenée cette réforme, donc sans accord avec les syndicats, en utilisant un véhicule législatif quand même très contraint par le temps. Comme vous le savez, ça a été le projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Donc, avec ces contraintes de temps et l'urgence qui entoure ce véhicule législatif, donc toutes les conditions étaient réunies pour que le débat soit électrique, en quelque sorte. Et avec une grande mobilisation sociale autour en France, on a eu jusqu'à quasiment 3,5 millions de personnes dans la rue à certains jours de manifestations. Et tout cela, une fois de plus, a fait, donc les conditions du débat, comme je disais, qui étaient électriques, a fait que, une fois de plus, les grands oubliés du débat et les grands oubliés de la réforme à l'Assemblée nationale ont été les Français établis hors de France. Le débat a pu se tenir un petit peu au sujet des Français établis hors de France au Sénat, d'ailleurs sur des amendements similaires à ceux que je souhaitais déposer, que j'avais finalement donné à un certain nombre de collègues à l'Assemblée nationale. Donc pour comprendre, justement, pour demander l'impact de cette réforme sur les Français établis hors de France, et pas que l'impact de cette réforme d'ailleurs. Je vous rappelle que déjà Pouria Amirshahi avait demandé, donc le premier député qui avait été élu sur la 9e circonscription, avait déjà demandé un rapport sur l'impact de la réforme Touraine sur les Français établis hors de France, rapport qui n'a jamais été fourni lors du mandat précédent, et aucun député d'ailleurs du précédent mandat n'a demandé. Donc là, nous avions réitéré cette demande pour comprendre l'impact de cette réforme sur les Français établis hors de France, de même qu'on demandait, par exemple, l'impact, l'état des lieux des différentes conventions bilatérales. Je vous rappelle que dans la 9e circonscription, il y a même deux pays qui n'ont pas de convention bilatérale avec la France, que sont le Burkina Faso et la Guinée. C'est une demande aussi continue qui avait été portée à l'époque par la gauche et qui visiblement a été oubliée une fois de plus lors du dernier mandat, alors qu'on avait plusieurs occasions de pouvoir travailler sur des accords bilatéraux avec ces pays-là. Donc voilà, et ensuite on connaît à certains égards déjà l'impact des précédentes réformes sur les Français établis hors de France, c'est-à-dire qu'on a fait sauter par exemple la proratisation, qui est une injustice totale, c'est-à-dire que les Français établis hors de France ou qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger se retrouvent doublement sanctionnés, non seulement sur le calcul du montant de leur retraite, mais aussi sur le nombre de trimestres qui sont comptés. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces questions sur lesquelles nous souhaitions avoir des réponses et que pour l'instant, la majorité a refusé. On l'a vu au Sénat, quand il y a eu une demande de rapport sur l'impact de cette réforme, ça a été refusé, y compris par les sénateurs de droite des Français établis hors de France.
Karim Benchek, juste revenir sur le calendrier contraint que vous dénoncez. Est-ce que finalement, le fait que si le gouvernement vous avait laissé, j'entends vous, à l'Assemblée nationale, tout le temps nécessaire pour examiner tous les amendements, est-ce que finalement ça aurait changé quelque chose? Parce que sur le peu de temps où le texte a été débattu, le débat a été extrêmement houleux et finalement le débat ne s'est pas vraiment installé. Et puis on voit bien qu'il y a en fait une différence extrêmement dogmatique entre la NUPES et la majorité présidentielle, c'est que eux veulent réformer ce système de retraite par une notion de travailler plus pour pour financer le manque à gagner, entre guillemets, en tout cas l'argent qu'il faut rajouter dans le système. Et vous, dogmatiquement, parce que ce sont vos idées, quand je dis dogmatiquement, c'est pas dans le sens négatif, vous proposez de financer ces retraites en allant taxer du capital. Je pense pas qu'on puisse vous mettre d'accord sur ça.
Je pense qu'en tout cas, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il faille avoir du débat de fond. On voit bien que ne serait-ce que sur les premiers jours où nous avons réussi, au contraire, où le débat de fond ne s'est pas installé, il y a eu un débat de fond qui s'est installé, justement, pour comprendre, notamment, c'est là qu'on a levé un certain nombre de questions sur le fait que la réforme pèse principalement sur les femmes, par exemple. C'est le débat de fond qui a permis de soulever cette question, que les projections faites en matière d'espérance de vie, on s'est très vite rendu compte qu'elles n'étaient pas les bonnes, sur le fait que le gouvernement s'appuie sur un seul des quatre scénarios proposés par le Conseil d'orientation des retraites et qui est le scénario finalement le plus négatif et un des scénarios les moins probables. Ça aussi, c'est le débat de fond qui a permis de pouvoir discuter de cette question. Donc, au contraire, moi, je pense que plus on a du débat sur le fond, plus on peut discuter des différents éléments de cette réforme. C'est les conditions dans lesquelles aussi ce texte arrive à l'Assemblée. Vous savez, c'est important. C'est important pour avoir un débat serein de ne pas, dès le départ, imposer un texte, comme je disais, dans un véhicule législatif très contraint, dont on ne comprend pas forcément l'utilité, si ce n'est que de tendre immédiatement les relations à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat. Voilà, il y a une quelque part, il y a une grande brutalisation du débat, ne serait-ce que par la méthode.
D'accord que vous continuez de dénoncer. Parlons de spécificité pour votre circonscription, si vous le voulez bien, avec trois thèmes. Celui que vous connaissez bien, puisque vous étiez aussi président du groupe d'amitié parlementaire France-Maroc, c'est l'état des relations diplomatiques entre les deux pays, la crispation autour des visas. Quelles sont les actions que vous avez lancées ou que vous désireriez mettre en place si les électeurs vous font de nouveau confiance?
Oui, vous avez raison de parler de crispation. Effectivement, vous soulevez la question de la relation entre la France et le Maroc. Moi, ce que je remarque, c'est qu'elle n'a jamais été aussi dégradée que depuis l'élection du président en 2022. C'est un fait. Et ensuite, vous avez soulevé la question des visas. C'est une question sur laquelle je me suis battu à l'Assemblée, sur laquelle j'ai interrogé non seulement le ministre, mais aussi le directeur d'immigration, etc. Car on l'a bien vu, cette crise des visas, qui ne concernait pas que le Maroc, qui concernait les trois pays du Maghreb, a eu pour effet, immédiatement, quelque part, de nous couper, de rompre la confiance avec les populations de ces pays, qui se sont senties prises en otage sur une question qui relevait d'abord, finalement, de la relation diplomatique ou des relations entre administrations. Et finalement, c'est les populations qui ont été prises en otage. Donc là, réellement, il y a eu une rupture de confiance avec les populations des deux pays. C'est ça qui est à souligner dans cette crise des visas. Et ensuite, bien sûr, avec un mélange de vent, à mon sens, qui on mélange la question de l'immigration, qui relève effectivement des discussions bilatérales, avec la question de la circulation, qui elle est censée répondre à un besoin de circulation des populations des deux rives de la Méditerranée. Donc voilà, effectivement, donc il y a eu une grande dégradation des relations, elle est indéniable. Moi, j'ai pris la présidence du groupe d'amitié France-Maroc et j'ai pu déjà commencer à recevoir des parlementaires marocains pour évoquer avec eux les différents sujets d'attention commune, hein, là où on pourrait, sur lesquels nous pourrions travailler, avancer en partenaire. J'ai profité aussi de mon passage à Rabat. Je suis passé à Rabat plusieurs fois, mais lors de mon dernier passage, j'ai vu aussi, j'ai pu faire des rencontres avec les présidents des groupes d'amitié Maroc-France, aussi bien à la Chambre des conseillers qu'à la Chambre des représentants, pour pouvoir continuer de travailler sur un calendrier commun de travail dans les prochains mois. Et là, pour aborder des sujets d'intérêt commun, vous savez, on a le sujet de la transition énergétique, par exemple, sur lequel le Maroc est très avancé et qui est d'un intérêt particulier quand même pour nous. On a le sujet de la couverture sociale sur lequel le Maroc a une grande ambition à un moment où nous, en France, on le voit, nous sommes en train de quand même détruire quelque part notre système de couverture sociale. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets que l'on peut aborder en bilatéral, l'important étant de reconstruire petit à petit des relations de confiance réellement entre interlocuteurs en travaillant sur des sujets assez précis.
Bien. Karim Benchek, un deuxième thème sur votre circonscription qui nous apparaît important, nous, à la rédaction, c'est le recul du français en Algérie avec les mesures du gouvernement pour finalement privilégier un peu plus l'anglais. C'est également le cas au Tunisie et au Maroc. Quelle perspective pour la francophonie et comment s'assurer de la vigueur de notre langue dans votre circonscription? Karim Benchek, on imagine pourtant que l'intérêt pour le français et reste important dans ces pays, notamment pour des raisons touristiques.
Oui, vous soulevez la question de la francophonie dans ma circonscription. Vous savez, si on aborde la francophonie uniquement dans une perspective de nombre de locuteurs, il faut aussi démystifier. Il y a quand même une très grande demande de français qui continue. Il suffit de voir le nombre d'écoles qui ouvrent et la demande de français qu'il y a. Il suffit de voir la progression des locuteurs en nombre. Mais la francophonie, la question ne se pose pas seulement en termes de nombre de locuteurs. La francophonie, c'est l'appartenance à un espace commun, c'est l'appartenance finalement à un certain nombre de c'est le partage d'un certain nombre de valeurs communes, et c'est la possibilité de se projeter dans cet espace commun. Donc il y a déjà cette question-là qu'il faut absolument aborder. Vous savez, la francophonie pose inéluctablement la question de la circulation dans l'espace francophone. Qu'a-t-on fait sur les 10-15 dernières années sur cette question? Il fut un temps, je me souviens, où on posait par exemple la question du passeport francophone, qui aujourd'hui est complètement passé à la trappe et dont on ne parle plus. Or, s'il y a impossibilité de se projeter en termes de circulation dans l'espace francophone, c'est vrai que c'est une idée qui, du coup, la francophonie est une idée qui inéluctablement va péricliter auprès des populations si elles n'arrivent pas à se projeter dans l'espace. Voilà. Ensuite, vous soulevez la question des locuteurs. Moi, je vous ai répondu par la demande d'école, par exemple, le besoin d'école. Et c'est important de savoir ce que l'on veut faire, par exemple, de notre réseau d'écoles à l'étranger, quelle est la vision que l'on a pour notre école à l'étranger. Or, aujourd'hui, il me semble que nous n'en avons pas. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui a sommé la EFE de doubler le nombre d'élèves dans son réseau, mais sans mettre un centime de plus ou quasiment. Donc, grosso modo, cela mène inéluctablement à une privatisation excessive du réseau. Et les quelques-unes qui ont été prises pour accompagner cette privatisation excessive, à mon sens, du réseau, sont par exemple la mise en place de centres de formation régionaux pour les recrutés locaux, qui est une bonne chose. Là n'est pas la question, ou alors de détachement direct de professeurs de l'éducation nationale. Donc, quand on regarde ces deux mesures, ne serait-ce que ces deux mesures, si c'est la seule perspective que nous avons pour renforcer notre corps professoral dans les écoles à l'étranger, on voit bien que par construction, je ne dis pas ça simplement en tant que membre de la commission finance, par construction, elles ne peuvent mener qu'à une augmentation des frais de scolarité, car comme on le sait, le recrutement local pèse sur les frais de scolarité, n'est pas financé directement par la EFE, et les détachés directs, déjà, ne bénéficient pas aux établissements en gestion directe et ne bénéficient pas aux conventionnés, viennent bénéficier aux écoles partenaires, et là aussi, ça pèse sur les frais de scolarité. Donc, on voit bien qu'on est véritablement dans une perspective de privatisation et d'augmentation des frais de scolarité. Est-ce que cela constitue une politique de l'enseignement français à l'étranger, je ne le crois pas. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion sur quelle politique publique de l'enseignement à l'étranger souhaitons-nous avoir. Est-ce que c'est une politique qui intègre aussi des questions comme la mixité sociale? Est-ce que c'est voilà, un projet pédagogique français, etc. C'est ces questions-là que nous devons aujourd'hui nous poser, et pas simplement dire nous allons doubler le nombre d'élèves dans notre réseau français à l'étranger sans mettre un centime de plus.
Dernier thème sur lequel on voulait vous interroger avant de parler quand même de l'influence française au Mali, mais c'est les fraudes aux aides sociales. En tout cas, les accusations de fraude aux aides sociales. Alors, est-ce que c'est une marotte et une petite musique désagréable qui revient? Je ne sais pas, mais en tout cas, Gabriel Attal l'a encore martelé après le Conseil des ministres le 8 mars dernier. La France va chasser les Français de l'étranger qui touchent les allocations en France alors qu'ils résident hors de France, avec notamment un allongement de la présence sur le sol français pour pouvoir les toucher. Enfin, il n'y a pas que ce point-là, mais il y a notamment ça. La Cour des comptes épingle également la France sur la fraude à la retraite. Est-ce que c'est clairement les résidents au Maghreb qui sont visés via ces déclarations de Gabriel Attal? Quelle est votre réaction sur ce sujet et comment vous vous positionnez sur des sorties qui sont quand même un petit peu musclées sur ces deux sujets-là?
Écoutez, si le gouvernement veut aller à la course à l'échalote sur cette question dont on sait de quel bord politique elle arrive généralement, oui, c'est une marotte ancienne, hein. Et d'ailleurs, on commence à mélanger la question des retraites et la question des aides sociales. Je vous rappelle que quand même, quand quelqu'un touche sa retraite, c'est qu'en général, il a cotisé. Mais plus encore, et quand on veut déconstruire des mythes, vous savez. J'ai vu à l'Assemblée nationale des députés demandant que les retraites, par exemple, soient soumises à des certificats de vie. Or, elles sont déjà soumises à des certificats de vie, donc à la production de certificats de vie. Donc, c'est dire à quel point aussi il y a une mauvaise information et il y a un certain nombre de mythes qui circulent là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi, quand on me parle d'aide sociale, je me préoccupe surtout des aides sociales aujourd'hui qui sont versées à nos Français établis à l'étranger. Et là, c'est plutôt à ce scandale-là, moi, je pense qu'il faudrait s'intéresser. Aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble du budget des aides sociales versées à nos Français de l'étranger, je vous rappelle que c'est quand même quasiment 3 millions à l'étranger, c'est 15 millions d'euros, donc à peu près 5 euros par Français établi hors de France. Et ça me paraît quand même quelque chose d'assez scandaleux, sachant que dans ces aides sociales, je comptabilise à peu près tout, c'est-à-dire que je comptabilise les allocations enfants handicapés, les allocations adultes handicapés, les allocations de solidarité, les aides exceptionnelles, les secours occasionnels et même la participation de l'État à la caisse des Français de l'étranger, qui, je le rappelle, est de 380 000 euros. Voilà la participation de l'État à ce qui constitue notre sécurité sociale à l'étranger.
Donc c'est quoi? C'est
Donc
un effet
voilà, c'est
d'annonce,
plutôt cette
ce que dit Gabriel
situation-là
Attal?
qui est... Mais moi, je vous dis ma préoccupation, et puis si le gouvernement souhaitait parler d'un sujet par ailleurs en matière de fraude, on ferait mieux de s'intéresser à la question de la fraude fiscale. Mais encore une fois, moi, ma préoccupation principale aujourd'hui, c'est quelles sont les aides sociales qui concrètement sont versées à nous, Français établis hors de France. Or, aujourd'hui, elles sont ridicules, voire scandaleuses.
C'est ce que vous répondez à Gabriel Attal, c'est que en réalité le compte n'y est pas.
Ah ben, non seulement le compte n'y est pas, mais il répond absolument pas aux besoins. Je vous rappelle que les résidents hors de France, vous savez, pareil, si je voulais utiliser d'autres chiffres, les résidents hors de France font remonter, grosso modo, au centre des impôts des non-résidents, à peu près, quoi, peu ou prou, 1,4 milliard d'euros. L'ensemble des prestations versées aux Français d'étrangers, donc quand on y inclut aussi les bourses scolaires, c'est 120 millions d'euros. Voilà, si on veut donner un ordre d'idée de ce que font remonter les non-résidents par rapport à ce qu'ils perçoivent, voilà. Donc, vous voyez, je pense qu'on ferait mieux de s'intéresser à ce genre de chiffres et à cette situation assez scandaleuse et assez unique. Là, aujourd'hui, il y a urgence là-dessus. À mon
Bien.
sens.
Deux questions pour terminer cette interview, Karim Benchek, avant de parler de comment vous mobilisez les troupes pour les 15 derniers jours de campagne. Les tensions liées à la sécurité et au recul de l'influence française, évidemment, au Mali. Que pensez-vous de la politique actuelle de la diplomatie française sur ces territoires? On a vu quand même l'armée française partir un petit peu rapidement et à la cloche de bois de certains territoires, notamment en raison de pression et de désinformation russe. Comment on résiste également à la désinformation russe, plutôt dans le sud de votre circonscription? Cette problématique n'empêche qu'elle est là et qu'effectivement, les images et le recul de l'influence française peuvent parfois surprendre.
Écoutez, vous dites qu'elles peuvent surprendre. À mon sens, il faut se pencher sur ce qu'a été notre politique finalement à l'égard de cette région du monde depuis maintenant 15-20 ans. Moi, ce que j'ai vu surtout comme précurseur à l'influence, à la baisse, vous dites, de l'influence française, moi, j'ai vu comme précurseur surtout la baisse et la déconstruction du démantèlement de nos instruments de coopération. Je vous rappelle qu'il fut un temps, il existait un ministère de la coopération qui a été remplacé, grosso modo, par une direction, ensuite dont on a passé l'ensemble des prérogatives à l'AFD, et on a transformé cette même AFD en banque. Donc, à partir du moment où votre principal outil de coopération, c'est une banque, ça limite le spectre des possibles, le champ des possibles. Et donc, il y a une vraie question à nous poser sur notre politique en matière de coopération en France. C'est-à-dire
Pour
qu'aujourd'hui,
vous, ce ne sont
notre
pas les pressions
principal
russes qui ont
outil.
conduit les Français à quitter le Mali, en tout cas
Mais
militairement. Ce ne sont pas
là,
les
vous
pressions
m'avez.
russes, c'est ça? C'est le.
Non, moi, la question qui me préoccupe aujourd'hui, c'est comment on se retrouve en situation à devoir être en concurrence avec des pressions russes ou ce que vous voulez, ou devoir être effectivement aussi victime de désinformation. Il y a un moment, il faut voir que notre politique véritablement en matière de coopération s'est complètement effondrée. Nous n'avons plus les outils de notre coopération. Je veux dire, tous le dénoncent aujourd'hui. On a cette particularité d'avoir un outil de coopération qui est fondé quasi intégralement, presque, sur du prêt. Je veux dire, contrairement d'ailleurs à l'Allemagne, contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement aux États-Unis. Donc il y a un moment, ça doit en urgence nous poser la question de que veut-on faire de notre outil de coopération? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et après, vous avez posé la question de la sécurité de nos compatriotes aussi, parce que tout cela, hein, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça a un impact sur la sécurité de nos compatriotes. C'est quand même ça aussi qui me préoccupe grandement dans notre circonscription. Et là, je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a eu les mouvements au Burkina Faso. À ce moment-là, nous étions en plein examen du projet de loi de finances. Nous avions réussi à faire voter en commission finances un amendement qui permettait la sécurisation à nouveau de toutes nos emprises à Ouagadougou. Donc ces emprises qui, je vous le rappelle, peuvent constituer à un moment des points de regroupement pour les Français en cas de tension. c'est quand même pas négligeable. C'est même un point assez central. Donc, nous avions réussi à dégager une majorité autour de ça, sans le soutien de Renaissance, mais nous avions réussi à dégager une majorité sur la question de la sécurité des Français au Burkina Faso. Nous avons voté des amendements dans cette perspective, et au moment du 49-3, la surprise a été de voir que ces amendements ont été retirés, alors même qu'ils étaient votés en commission finance. J'ai trouvé que là, il y avait aussi une part de cynisme et de déconsidération pour la sécurité des Français dans cette zone du monde.
Karim Benchek, pour terminer, plus que 15 jours de campagne, dans un contexte d'élection partielle qui n'est pas facile à mener. C'est déjà compliqué une législative pour les Français de l'étranger quand ce sont les élections législatives partout. Là, c'est partiel, il faut mobiliser les gens, il faut les informer. Qu'est-ce que vous avez prévu pour mobiliser vos troupes, notamment les troupes de la NUPES, pour voter le 2 avril prochain? S'il y a des meetings ou des rendez-vous en ligne?
Écoutez, vous savez, moi j'avais fait le pari que de d'abord faire une campagne qui se repose sur beaucoup de travail de terrain et qui va d'ailleurs beaucoup plus largement que la NUPES. Terrain, je n'appartenais à aucun parti politique en particulier, je suis apparenté génération, donc solidement ancré à gauche, mais je trouve que il fallait rassembler bien plus largement. C'est ce que j'avais fait dans ma première campagne, j'avais cité pas mal de villes, fait pas mal de meetings, et c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous me parlez, j'ai fait pour l'instant plus d'une vingtaine de villes avec des réunions publiques à chaque fois, des rencontres, une vingtaine de villes et 8 pays, et je vais poursuivre dans les 15 prochains jours là-dessus, en rassemblant pas seulement la NUPES, comme je vous disais, mais c'est plus large. Moi, aujourd'hui, je suis soutenu par l'ensemble des partis de gauche, et sur le terrain, c'est d'abord un travail avec les élus, qui d'ailleurs ne sont pas tous à gauche, mais partagent, c'est les élus qui me soutiennent, j'entends, ne sont pas forcément tous à gauche, les conseillers consulaires, vous savez, quand je parle d'élus, c'est les conseillers consulaires, mais partagent avec moi nombre de préoccupations sociales. Ce sont les associations. Il y a quand même un tissu associatif qui maille cette circonscription et qui est aussi très engagé, motivé pour porter les questions des Français de l'étranger, sur lequel je m'appuie grandement. Donc voilà, la mobilisation passe par un travail de terrain incessant. Moi, je fais en moyenne quasiment une réunion publique par jour, en changeant de pays, je pense à peu près tous les 2-3 jours. Donc c'est ça le travail de mobilisation que l'on fait. Vous avez raison de dire que ce n'est pas toujours évident sur une législative partielle, mais je fais le pari que c'est ce travail de terrain qui mènera à la mobilisation de tous, parce que les préoccupations sont fortes et les préoccupations sont partagées. Et je continuerai comme ça jusque, je vous le rappelle, c'est pas le 2 avril, c'est déjà, on a une première date qui est déjà dès le 24 mars, il y a le vote en ligne.
Avec une période pour voter en ligne qui est un petit peu étalée. Merci beaucoup Karim Benchek, je me dois de rappeler comme à l'accoutumée, donc on va rappeler les autres candidats. Vous êtes 15 candidats dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, vous, mais également Samira Herbal, Mjid El Guerab, Sébastien Perimimoni, Ouma Ba, André Tchouk, Hervé Diaz, Nassim Ben Lemous, Thiaba Bruni, Nicolas Oukluir, Caroline Traverse, Grégory Zawi, Brahim Wero, Fatou Sanian So et Edouard de Castellans. Voilà, donc on vote à partir du 24 mars, vous l'avez dit, en ligne, et le 2 avril à l'urne. Merci Karim Menchek d'avoir répondu à nos questions.
Merci Mathieu.